vote pour la science avec Isabelle Burgoyne.
Bonjour à vous. Les médias parlent de la santé mentale mise à mal chez les jeunes. Depuis la pandémie, mais aussi avec la compulsion des écrans, sans compter les soucis liés aux études, au travail, cela fait beaucoup. Les jeunes vivent aussi beaucoup d'anxiété liée à la dégradation de l'environnement, les dérèglements climatiques ou encore les conflits armés présents dans les nouvelles. Près de la moitié des jeunes de la génération Z, ce sont les 15-25 ans, déclaraient en 2024 avoir connu un épisode dépressif. Les milléniaux qui les précèdent, les 26-44 ans, n'allaient pas mieux. Les jeunes seraient par contre ceux qui fument le moins, boivent le moins et sont le plus éduqués. Donc comment se porte la santé mentale des 18-30 ans? Nous en parlons tout de suite. Ne bougez pas. Je vote pour la science. Aujourd'hui, nous nous intéressons à nos jeunes adultes. Ils démarrent des carrières, poursuivent des études, emménagent dans leur premier appartement. Ils connaissent aussi beaucoup d'anxiété, comme nous allons le voir. Pour en parler, je suis en compagnie de Jonathan Bilodeau. Il est professionnel de recherche à l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et en sécurité du travail, professeur associé à l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal. Il est aussi sociologue expert en déterminants sociaux de la santé. Bonjour.
Bonjour.
Je suis aussi en compagnie de Fred William Miro. Il est président de Force Jeunesse. C'est un organisme qui défend les droits des jeunes dans la vie politique. Donc bonjour.
Bonjour.
Détresse psychologique, épuisement professionnel, les jeunes cadres de 18-34 disent en souffrir pour près de la moitié des personnes interrogées selon de récentes données de l'Observatoire sur la santé et le mieux-être au travail. J'ajouterai l'éco-anxiété, les traces de la pandémie, les écrans et la connexion numérique envahissante, ça fait beaucoup et ça doit sans doute fragiliser la santé de nos jeunes adultes. Donc comment se portent les jeunes adultes? Je vais commencer avec vous, Monsieur Miro. Vous êtes un jeune adulte, donc peut-être comment vous portez-vous et comment se portent les jeunes?
C'est une bonne question. Donc moi, personnellement, ça va bien, mais à Force Jeunesse, on soulève des drapeaux jaunes depuis quelques années sur justement l'évolution des facteurs de stress chez les jeunes. Évidemment, il y a tout le stress qui a été généré ou accentué durant la pandémie. On s'en souvient encore, puis je pense qu'on a encore aujourd'hui des séquelles ou des résidus de cette période-là, mais vous l'avez nommé, il y a tout le stress lié à l'avenir environnemental, l'éco-anxiété. Si vous regardez au niveau des facteurs de stress au travail, donc la CNSST, les lésions de stress avaient déjà augmenté de 53% dans la période entre 2015 et 2018, donc ça précède la pandémie. Et on peut penser à tout le stress lié à l'avenir économique, l'accès au logement, les finances personnelles. Tout ça pour dire que notre génération, elle est soumise à plusieurs de ces facteurs de stress-là. Et il y a lieu de s'inquiéter sur l'accès aux soins, qui demeure un défi, là, aux soins de psychothérapie. Et c'est pour ça que Force Jeunesse, nous, ça fait quelques années là, qu'on met de l'avant le besoin d'une certaine intervention publique pour garantir un accès de base aux soins de psychothérapie. On parle de la mise en place progressive d'un régime public de soins de psychothérapie qui permettrait de favoriser cet accès-là, particulièrement chez les jeunes, mais aussi chez les autres générations. Donc ça, ce sont les éléments que nous, on voit de notre côté. Oui. Donc, pour revenir à la question, c'est sûr qu'on est inquiet de la tendance que ça prend. Et ce qui nous frappe le plus, c'est le fait que ces besoins-là demeurent, même après toutes ces années, même quand on voit plusieurs articles et études qui montrent qu'il y a une problématique majeure dans cette génération-là, puis on croit qu'il faut qu'il y ait des mesures plus structurantes pour corriger ça.
Oui, Monsieur Bilodeau, on va passer du côté justement des études, mais je veux savoir, d'après vous, comment se portent les jeunes adultes et quels sont peut-être les principaux enjeux actuels auxquels ils sont confrontés?
Je dirais que globalement, l'intégration des jeunes vers des emplois sains, sécuritaires et de qualité constitue, à mon avis, un défi auquel on doit s'attarder. Il y a des études qui rapportent que les jeunes sont davantage confrontés à des conditions d'emploi dangereuses, davantage d'emplois précaires, dont par exemple plus d'instabilité, de mobilité, des revenus plus faibles, des emplois temporaires. Les jeunes sont aussi souvent en période de transition, comme vous l'avez mentionné, donc le marché de l'emploi, les déménagements, la parentalité. Et donc, ça amène des éléments de nouveauté, des responsabilités supplémentaires. On voit aussi des données récentes qui indiquent que le taux de chômage est quand même élevé parmi les jeunes. Et donc, il s'agit d'aspects qui peuvent amener un désavantage cumulatif. Par contre, je tiens à préciser que les jeunes sont loin de représenter un groupe homogène et donc les enjeux prioritaires peuvent quand même varier considérablement à l'intérieur de ce groupe. Par exemple, on a mené une étude auprès de 1790 étudiants et étudiantes gradués de 3 universités du Québec durant la pandémie COVID-19. Et nos résultats ont montré que les difficultés financières, les nouvelles méthodes d'enseignement, la crainte qu'un membre proche ou soi-même contracte la COVID-19, le conflit travail-famille et le conflit famille-travail étaient tous associés à davantage de symptômes dépressifs. Seulement pour préciser là, rapidement que le conflit travail-famille, c'est lorsque les demandes provenant du travail vont interférer avec les responsabilités familiales, tandis que le conflit famille-travail, eh bien, c'est lorsque les demandes familiales interfèrent avec les responsabilités au travail. Et dans le cadre d'une étude qui mobilise les données de l'étude longitudinale du développement des enfants du Québec, nos résultats préliminaires indiquent que les trajectoires d'études et d'emploi vont influencer le type de risque auquel les jeunes vont être exposés. Par exemple, une intégration plus tardive sur le marché de l'emploi, mais fortement intégrée à l'âge de 21-23 ans, va être associée à davantage de demandes psychologiques. Et donc, on constate que les enjeux peuvent différer en fonction des caractéristiques des jeunes et de leur trajectoire.
Oui.
Au niveau du portrait, c'est difficile d'avoir un portrait représentatif de l'évolution. Considérant les délais nécessaires entre la collecte et la diffusion des résultats. Mais globalement, si on regarde les portraits d'ensemble des jeunes, les données compilées par Statistique Canada suggèrent une dégradation de plusieurs indicateurs de santé mentale entre 2002 et 2021. Mais il faut se rappeler qu'à ce moment-là, on était en période pandémique lors de la collecte.
Oui, tout à fait. Justement, on va continuer à parler de la pandémie. Monsieur Mirou, vous avez évoqué tout à l'heure que la pandémie a laissé une trace, une empreinte sur le bien-être des jeunes. Expliquez-nous.
Bien, c'est certain que, et j'en fais partie, là, les jeunes qui ont vécu la pandémie ont été privés d'une période de socialisation qui est extrêmement importante dans leur vie. Mm-hmm. C'est une période, moi j'étais à l'université à ce moment-là et j'ai passé un an et demi devant mon ordinateur alors que plusieurs générations, les études universitaires, c'est une période de socialisation extrêmement intense. C'est là qu'on développe des réseaux professionnels, mais aussi des amitiés qui souvent perdurent pour la vie. Donc, il y a certainement eu ce manquement-là. Je vous dirais aussi que d'un point de vue plus de développement des compétences, puis là, je parle peut-être moins pour les gens qui avaient 20-25 ans au moment de la pandémie, mais peut-être pour les gens un petit peu plus jeunes encore, toutes les compétences transversales qu'on développe en début d'emploi, ça a peut-être été plus compliqué. Les compétences sociales, comment on interagit avec le public, comment on interagit dans, par exemple, le service à la clientèle, ce genre de choses-là, évidemment, ça a créé un décalage peut-être entre les gens qui ont vécu la pandémie, qui étaient déjà peut-être un peu plus âgés, ou les gens qui étaient en début de parcours, comme les jeunes. Et il y a évidemment toute l'augmentation du stress qui a été augmentée. Il va falloir voir en effet là, c'est quoi l'évolution de ces tendances-là avec des données plus récentes. Mais certainement que ça a créé un certain décalage entre les jeunes générations et les gens qui ont un peu plus de vécu, qui ont un emploi plus stable, qui connaissent déjà, qui ont déjà des réseaux établis. Donc là-dessus, je vous dirais, c'est sûr qu'on voit encore, là, puis à Fort Jeunesse, on s'en fait encore parler, là, l'impact de cette période-là sur le développement social, le développement des compétences des jeunes. Donc ça disparaît pas du jour au lendemain, même si ça fait quelques années que la pandémie est derrière nous, on le ressent encore un petit peu aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Vous avez raison. Monsieur Bilodeau, les données récentes, est-ce qu'elles confirment cette dégradation ou une amélioration de la santé mentale des jeunes? Ce qu'on sait de manière récente, là?
En fait, c'est pas tout à fait clair et ça dépend vraiment des indicateurs de santé mentale sur lesquels on s'intéresse. Si je prends l'exemple de l'étude longitudinale de l'Observatoire sur la santé et le mieux-être au travail, qui a interrogé plus de 7500 travailleurs et travailleuses répartis dans 117 milieux de travail. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a une augmentation considérable de la détresse psychologique parmi les jeunes de 18 à 34 ans entre le cycle 1, donc ça c'est 2019-2021, et le cycle 2, qui est 2020-2022. Et le pourcentage de détresse a ensuite diminué pour se stabiliser. Mais il faut savoir que durant le cycle 5, qui est 2023-2025, il y a quand même 42% des jeunes qui rapportaient de la détresse psychologique. Et
c'est
il s'agit
beaucoup.
Du pourcentage, le plus élevé par rapport aux autres groupes d'âge. Mais par rapport à l'épuisement professionnel, par contre, ça a été relativement stable pour les 18-34 ans entre 2019 et 2025, même si c'est parmi ce groupe que le niveau est le plus élevé. Là où est-ce qu'on observe une augmentation notable, par contre, c'est relativement à la consommation de médicaments psychotropes, qui sont par exemple des tranquillisants, des antidépresseurs, des somnifères. Et donc, l'étude suggère que la proportion chez les 18-34 ans serait passé de 15 à 25 % entre 2019 et 2025. Oui, en effet.
Ça fait un jeune sur quatre, presque, ou...
Oui, c'est ça, en 2025, là, dans cette période-là.
Oui, mais c'est ça, on parle des jeunes, mais on pourrait les mettre en parallèle avec les autres groupes d'âge aussi. 40 %, 44 %, c'est quasiment un jeune sur deux qui avoue avoir de la détresse. Comment se portent les autres par rapport aux autres? C'est le groupe de tête, c'est ça?
Oui, c'est là qu'on retrouve les proportions les plus élevées. Si on regarde l'ensemble, c'est plus bas, là, effectivement.
OK. Est-ce qu'on a des données sur les raisons de cette dégradation?
Il y a plusieurs facteurs explicatifs, effectivement. Mais c'est dur de mettre le doigt sur un facteur plus qu'un autre. Donc, ça va dépendre vraiment des populations. Si on prend, par exemple, les populations d'étudiants qui sont au cycle supérieur, les facteurs peuvent être différents que ceux qui sont décrocheurs, par exemple.
Oui, vous le rappeliez tout à l'heure, c'est un groupe hétérogène entre les études, finalement, le début des études, puis le travail affirmé. Monsieur Miro, qu'est-ce que nous dit un petit peu, qu'est-ce que ça nous dit sur nos milieux de travail? Et où nos milieux d'études, finalement, cette constatation de la dégradation de la santé mentale des jeunes?
Bien, je peux vous parler, en fait, puis pour faire du pouce sur les conséquences de la COVID. Nous, Forge Jeunesse, en collaboration avec la chaire Myriagone de l'Université de Montréal, on avait conduit une étude l'an dernier qui a été diffusée en mai dernier publiquement, qui porte sur les stresseurs au travail et l'émergence de ces facteurs de stress-là. Et je vous dirais que l'un des facteurs les plus frappants des constats qu'on a vus avec les participants de la recherche, c'est à quel point les jeunes sont... Évidemment, il y a des facteurs de stress liés à la surcharge de travail, ce genre de choses-là, mais ça, c'est des facteurs qu'on peut retrouver dans des proportions similaires dans d'autres groupes d'âge. Mais c'est vraiment l'hyperconnectivité au travail qui frappe beaucoup chez les jeunes. Puis ça, on s'en était fait parler justement du fait que pendant la pandémie, les jeunes, c'est des jeunes générations qui ont grandi avec Internet, les réseaux sociaux, et pendant la pandémie, se sont mis à peut-être consommer encore davantage
les
réseaux sociaux.
De loisirs aussi, en plus.
Exact. Ouais. Et depuis la fin de la pandémie, bien, cette hyperconnectivité-là est demeurée. Et dans les discussions qu'on a eues avec les participants de la recherche, de l'étude, ce qui est intéressant, c'est que il y a beaucoup de jeunes qui nous disaient l'hyperconnectivité ou le besoin d'être connecté en dehors des heures de travail, c'est pas une exigence formulée par l'employeur. C'est les jeunes souvent qui se mettent ce genre de pression-là parce que c'est dans leurs habitudes de voir qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux, d'ouvrir leur courriel, etc. Donc, tout ça pour dire que c'est certain qu'il y a peut-être des inquiétudes en particulier sur l'encadrement du droit à la déconnexion dans un contexte post-pandémique parce que les jeunes ont grandi avec Internet, avec les réseaux sociaux et la pandémie a exacerbé cette dépendance. Et donc, ça crée peut-être dans certains milieux de travail. Puis là, en effet, il ne faut pas généraliser. Là, les groupes ne sont pas un groupe homogène, mais Il y a certainement des préoccupations dans certains groupes de jeunes sur leur surexposition
au
réseau,
hein,
au courrier, mais aussi à l'effacement de la ligne ou de la séparation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, qui est peut-être moins évidente qu'avant avec le travail à la maison et avec d'autres types d'aménagements. Fait que tout ça pour dire, nous, c'est certain que c'était un constat qui nous avait fait beaucoup réfléchir et je le répète, là, qui n'est pas nécessairement de pointer du doigt les employeurs. Là. C'est un dialogue qui est plus compliqué parce que ça invite vraiment une sensibilisation et une reconnaissance de la part des jeunes qu'il y a un problème et qui ont besoin de mettre peut-être des balises différentes dans leur milieu de travail.
Oui, les employeurs sont en train de reculer sur le télétravail. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui entre dans l'équation, finalement, ou l'accès aussi au travail pour les jeunes, parce que le chômage est là, Monsieur Miro?
En fait, je pourrais pas dire exactement les raisons qui poussent les employeurs à faire un retour au travail. C'est certain que nous, dans justement la recherche Quest qu'on avait fait avec la chaire Myriagone, il y avait plusieurs jeunes qui mentionnaient que de voir leurs collègues en présentiel, ça leur apportait des bénéfices en termes de santé mentale. Il y en a d'autres qui disaient qui avaient un portrait différent, qui disaient le stress d'être pris dans le trafic ou de se déplacer, d'avoir peut-être une certaine façon d'agir au travail, ça leur génère du stress. Donc c'est dur de tracer un portrait unique sur qu'est-ce qui est plus bénéfique pour les jeunes en matière de santé mentale au travail. Je pense que nous, c'était un des constats dans l'étude qu'on avait fait, c'était d'inviter à un dialogue sain entre les employeurs et les employés. Il n'y a pas de solution magique, puis il n'y a pas de solution mur à mur, mais l'idée, c'est juste de s'assurer qu'il puisse avoir un dialogue entre les employeurs et les employés pour trouver une façon de travailler en hybride ou en présentiel ou en télétravail qui fonctionne pour autant l'employeur que l'employé. Donc, ça, c'est un peu ce qu'on invitait. Après, pour les motifs qui poussent les employeurs à ramener tranquillement la présence au bureau, ça, j'imagine qu'il y a d'autres facteurs également à prendre en compte, mais je ne m'avancerai pas sur ce sujet.
Oui, oui. C'était pour savoir comment ils le vivaient, finalement. Mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, particulièrement les femmes, les personnes non-binaires et les étudiants. Je sais, M. Bilodeau, que vous intéressez beaucoup aux inégalités de genre. Donc, parlez-moi un petit peu des stresseurs suivant les différents groupes. L'exposition et la réaction aux stresseurs qui seraient différentes selon notre identité de genre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, M. Bilodeau?
Effectivement, le genre est un déterminant structurel des inégalités de santé physique et mentale et dont les manifestations sont multiples, sont à plusieurs niveaux et c'est très complexe, là, cette articulation-là. Mm-hmm. Et une partie de mes travaux s'attarde justement à capter certaines manifestations du genre et documenter comment cela contribue aux inégalités de différents indicateurs de santé, dont la santé mentale entre les femmes et les hommes. Et l'une des manifestations du genre comme structure sociale va être captée à travers l'exposition différentielle. Donc concrètement, en fonction d'être une femme ou un homme, les personnes n'auront pas accès aux mêmes ressources et feront pas face aux mêmes contraintes associées à la santé mentale. C'est un des exemples, là, c'est le fameux plafond de verre auquel les femmes peuvent être confrontées. Donc une difficulté à accéder à des postes
de responsabilité,
c'est ça, dans les organisations. Et nos travaux ont montré, par exemple, que les femmes en emploi avaient moins d'autorité décisionnelle, rapportaient davantage de conflits du travail vers la famille, étaient davantage en situation de monoparentalité et rapportaient moins d'estime de soi, qui était associé à plus de détresse psychologique. Mais d'un autre côté, les hommes, eux, travaillent davantage d'heures. Ils avaient plus d'horaires de soir, plus d'horaires irréguliers et moins de soutien social, ce qui était indirectement associé à plus de détresse en augmentant le conflit du travail vers la famille. Donc, lorsqu'on contrôle pour les différences d'exposition, il n'y a plus de différence significative entre le fait d'être une femme ou un homme et la détresse psychologique. Et on a montré des résultats similaires pour les symptômes dépressifs et l'épuisement professionnel. Et il faut savoir aussi que cette exposition varie d'un contexte à l'autre. Une autre de nos études qu'on a réalisées montre que les mécanismes d'exposition qui sont impliqués dans les inégalités santé mentale diffèrent entre les provinces canadiennes. Ah. Et une autre manifestation du genre va être captée à travers la sensibilité différentielle aux stresseurs. Et donc concrètement, le genre amènerait les hommes et les femmes à donner une signification, une importance différente aux stresseurs et aux ressources. Et cela se traduit par des effets différents sur la santé mentale devant des situations similaires. Oui. Par exemple, une autre étude sur la même population montre que les problèmes avec les enfants sont mm-hmm. associés à significativement plus de détresse chez les femmes à travers plus de conflits de la famille vers le travail.
Mm-hmm.
Et rapidement, une troisième manifestation du genre, c'est celle de l'expression. Concrètement, faire le genre impliquerait des manifestations différenciées des émotions, alors qu'en fait, des problèmes de détresse et de dépression sont plus prévalentes chez les femmes en emploi. On voit que les hommes ont davantage de problèmes de consommation d'alcool et de drogue. Et donc, devant un même stresseur, les hommes et les femmes pourraient exprimer différemment leur détresse.
On a et des donc, stratégies différentes, c'est ça?
Exact. Dans une autre étude, on a montré que le conflit famille-travail est lié à plus de détresse psychologique chez les femmes, mais à plus de consommation d'alcool à risque chez les hommes.
Oui. En fait, j'ai l'impression que la ligne est fine entre le travail, les stresseurs au travail et les stresseurs à la maison, et que l'un percole l'un dans l'autre, si je comprends bien.
Tout à fait. Il ne faut pas voir ça comme étant en silo. Là. Ce qui se passe à la dans la famille et dans le travail là, sont étroitement interreliés. Là.
Oui. Est-ce que vous pouvez me glisser un mot sur les personnes non-binaires et les étudiants par rapport à leur santé mentale?
Oui, ben ce qu'on voit, c'est que les personnes étudiantes, les taux de problématiques de santé mentale sont quand même nettement plus élevés que par rapport à la moyenne de la population.
Okay.
Et c'est la même chose pour les personnes non-binaires. Là. Il y a beaucoup d'études qui montrent que les problématiques de santé mentale chez cette population-là est quand même élevée. Là.
Pourquoi? Est-ce qu'on connaît les raisons?
Ben, ils peuvent faire face à un ensemble de stresseurs auxquels ne fait pas face la population en général. On peut parler de stigmatisation, de discrimination et tout. Là. Donc, c'est difficile de cibler un élément en particulier, mais ils peuvent être confrontés à davantage de défis, ce qui peut impacter leur santé mentale.
Oui, et du côté des étudiants? C'est plus une question d'argent, peut-être, c'est un problème.
Il y a les difficultés financières, comme on l'a documenté, effectivement, qui peuvent intervenir. Mais il y a aussi toute la question de la conciliation entre le travail, la vie personnelle, les études. Donc, tout ça peut aussi ajouter un stress supplémentaire chez cette population. La performance aussi.
Ah,
donc,
oui.
Tout ça là, intervient chez des populations spécifiques de jeunes.
Entendu. Merci, M. Bilodeau. M. Miro, du côté des étudiants, est-ce qu'ils ont accès justement à des soins psychosociaux? Comment ils vivent ça, leur santé mentale? On le comprend et on l'a entendu, qui est peut-être un peu moins bonne.
Bien, il y a différentes ressources qui sont à leur disposition. Je vous dirais qu'au niveau des étudiants, il y a souvent les universités, les établissements collégiaux universitaires vont avoir des ressources de santé mentale qui vont être accessibles. La problématique auxquelles les étudiants font face, c'est l'accès à ces services-là qui ont souvent des délais très, très longs. Ils peuvent se tourner vers le privé. Il y a de plus en plus d'étudiants qui se dotent d'assurance qui leur permettent d'accéder à des ressources externes. Mais encore là, c'est vrai pour les étudiants comme c'est vrai pour les professionnels qui ont des emplois. La santé psychologique, ça, souvent, c'est pas un panier, dans le panier d'assurance, c'est pas un volet qui est largement couvert. Donc, ça soulève quand même des enjeux en termes d'accès aux soins, puis pas juste un accès géographique. Les études que nous, on avait faites, il y avait certaines régions où l'accès aux soins de psychothérapie est un enjeu parce qu'il n'y a juste pas de professionnels en assez grand nombre pour couvrir les besoins. Mais il y a également toute la question de l'accès financier où si l'assurance couvre 3 ou 4 séances de psychothérapie par année, ben personne après, elle est laissée un peu à elle-même. Excepté pour des situations d'urgence, parce que là, il y a d'autres ressources qui sont accessibles, mais il y a clairement une meilleure balance en termes d'accès aux soins à trouver. Là. Puis je reviens sur l'idée d'un régime universel qui ne viserait pas nécessairement à remplacer tous les régimes privés qui existent. Là. Nous, à force, on le voyait un peu comme ce qui a été fait sur l'assurance médicaments ou les assurances dentaires, c'est-à-dire que le public couvre une certaine portion. On pourrait dire, par exemple, que l'État québécois offre à tous les citoyens 4 ou 6 ou 10 séances par année, puis après pourront complémenter de leurs propres assurances les les autres besoins qu'ils pourraient avoir. Fait que c'est un modèle qui nous apparaissait intéressant pour assurer justement une plus grande équité.
Oui.
Mais évidemment, il y a une pénurie de professionnels dans ce domaine-là qui est un autre enjeu aussi avec la mise en place de ce genre de programme universel-là.
Ah oui, oui,
mais
ça prend
pour dire, il y a clairement un problème dans l'accès aux soins. Les délais sont très longs et ça demande souvent un suivi qui est récurrent. Puis les étudiants et les jeunes qui commencent un emploi n'ont pas tout le temps les moyens de mettre assez d'argent pour avoir le soutien psychologique approprié. Et donc, des fois, il y en a qui font le choix d'espacer les rencontres avec des professionnels ou de simplement arrêter les traitements parce qu'ils n'ont plus les moyens de poursuivre ça. Donc ça nous soulève certainement des préoccupations.
Oui, un gros enjeu financier lié à ça. Monsieur Bilodeau, pouvez-vous nous rappeler quelques aspects positifs, parce que tout n'est pas noir pour les jeunes travailleurs, les jeunes adultes?
Effectivement, comme certaines données semblent l'indiquer, il y aurait quand même une diminution de certaines problématiques de santé mentale parmi les jeunes depuis la pandémie, hein, ce qui est quand même encourageant, malgré qu'il y a quand même des efforts de prévention qui doivent être faits et même accentués. Il y a aussi des données de Statistique Canada qui suggèrent une diminution de la proportion de jeunes de 15 à 24 ans qui évaluent leur journée de travail comme étant stressante ou extrêmement stressante entre 2002 et 2022. Et on note également une diminution de la consommation abusive ou la dépendance à l'alcool parmi les jeunes. Il y a aussi eu des investissements pour la santé mentale, même si on avait peut-être besoin de plus, mais donc il y a une priorité qui est de plus en plus là par rapport aux jeunes. Il y a plusieurs projets de recherche avec des partenaires jeunesse qui sont en cours afin de mieux orienter les décisions, aussi les mécanismes de prévention. Il y a eu plusieurs initiatives aussi de la CNESST, dont des campagnes de sensibilisation auprès des jeunes et des employeurs. Hein. Il y a aussi une escouade jeunesse qui a été mise sur pied. D'ailleurs, il y a un rapport de la CNESST là, qui faisait état d'une diminution des accidents du travail chez les jeunes en 2018 et 2023. Donc, rappelons là, que les accidents peuvent aussi être associés à une détérioration de la santé mentale. Donc, oui, il y a quand même des bonnes nouvelles derrière tout ça.
Tant mieux. On veut des bonnes nouvelles. Donc, merci beaucoup. On était en compagnie de Jonathan Bilodeau, qui est sociologue, expert en déterminants sociaux de la santé, professionnel de recherche à l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité au travail et professeur associé à l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal. Et on était aussi en compagnie de Fred William Miro, le président de Force Jeunesse. On mettra le lien de cet organisme. Merci.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vote pour la science. C'est une production de Science Presse avec Radio-VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine Fanny Roubarcher et à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Si vous avez aimé l'émission, partagez-la. Vous pouvez suivre aussi l'émission sur la page de l'agence Science Presse, donc à sciencepresse.qc.ca. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine à notre antenne.
Jing Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique.